la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Les modèles d'organisation pyramidale des collectivités territoriales semblent changer et évoluer. Le système de la prise de décision descendante s'effacerait-il au profit d'un modèle plus transversal ? Comment les équipes dirigeantes accompagnent-elles leurs collaborateurs dans ces organisations en mode projet ? La crise sanitaire accentue-t-elle la transition managériale ? Nous allons aborder toutes ces questions au travers du prisme de la formation professionnelle continue. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Leverbe et Bernard Oscagnan, conseillers formation de la spécificité management au sein de la délégation Île-de-France du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Bonjour Corinne, bonjour Bernard. Corinne, Bernard, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Tout d'abord, bonjour. Alors moi, je travaille au CNFPT depuis plus de 6 ans en qualité de conseillère formation dans le domaine du management. Et puis auparavant, j'ai longuement travaillé en collectivité, plus particulièrement au sein d'une direction des ressources humaines.
Voilà, bonjour, moi je suis Bernard. Donc je travaille au CNFPT depuis 2009 dans l'accompagnement de collectivités. Dans mon parcours, j'ai travaillé au sein de collectivités, mais aussi au sein d'entreprises.
Je vous remercie. Ensemble, vous accompagnez une centaine de collectivités territoriales franciliennes chaque année. Quels sont les points saillants qui ressortent de vos entretiens avec les équipes de direction depuis la crise sanitaire que nous connaissons ?
Je dirais moi qu'il est plutôt question aujourd'hui de tirer les enseignements de cette crise sanitaire. Hein. Souvent nos échanges, c'est souvent le but de nos échanges, de comprendre finalement ce qu'on a vécu individuellement et collectivement, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. La crise, elle a questionné les organisations. Alors je dirais dans leur capacité à la fois à réagir, à agir, mais aussi à trouver des réponses rapides et à s'adapter. Le modèle d'organisation est aujourd'hui, il est questionné, il est interrogé. Et peut-être que cette étape est vraiment un préalable, peut-être pour redéfinir les nouvelles bases pour travailler, pour mieux travailler ensemble, pour travailler autrement. Et puis aussi de comprendre quelles sont les compétences qui sont attendues aujourd'hui. Et puis aussi demain, dans une collectivité, puisqu'on sait que cette crise, elle a profondément modifié et bouleversé ce qu'on connaissait. Alors, bien sûr, nous, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre aussi d'élaborer des dispositifs de formation qui répondent à ces besoins de compétences et en impliquant largement les agents.
Merci, Corinne. Bernard, quel est votre regard sur cette question ?
Je rebondis volontiers sur les enseignements à tirer de la crise, d'autant plus que, on le sait, hein, de nouvelles formes de management ont été largement et massivement déployées pendant la crise, le management à distance, le management en télétravail. Concernant les dirigeants, moi je dirais une chose, c'est que quand je les écoute, j'entends des choses très intimes. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour eux de très intime, à l'écoute des fragilités, à l'écoute de l'incertitude. Et je sens que là, il y a quelque chose de très intime et personnel qui se joue chez chaque dirigeant.
Alors, sans transition, les modèles d'organisation des collectivités sont-ils plus transversaux ? En management, on parlerait de méthodes agiles. Pouvez-vous nous parler des nouvelles approches managériales ? Le co-développement, le design thinking, le coaching ? Corinne ?
Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que les collectivités, elles ont été bouleversées dans leur fonctionnement hein, et qu'on a vu apparaître des nouvelles formes d'organisation. Alors, c'est vrai que durant cette crise, les encadrants, les agents, ils ont expérimenté, ils ont innové et ils ont appris dans ce contexte contraint. Alors, peut-être aussi parce qu'elles n'avaient pas, on n'avait pas d'autre choix. Et d'ailleurs, c'est souvent hein, dans la contrainte qu'on devient créatif. Et puis, j'ai envie de dire que les collectivités avaient, je dirais, elles avaient une mission qui était d'assurer le maintien du service public. Et les valeurs de service public ont probablement été les sources d'investissement et de motivation et d'engagement des agents. Alors, cette crise, elle a accéléré le changement, mais peut-être que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de capitaliser et de valoriser les bonnes pratiques qui ont vu le jour durant cette crise et qui pourraient peut-être être pérennisées.
Bernard, pouvons-nous parler de méthodes agiles ?
Alors, les méthodes agiles, c'est très intéressant. Je renvoie tous les auditeurs au manifeste agile qui laisse une grande part à l'inattendu, justement, à l'émergence. Voilà. Alors, on pourrait penser que, justement, face à la crise, il y a un recours à l'agilité d'autant plus fort. Alors, moi, je ne sais pas si on peut parler d'agilité. Par contre, ce qui est certain, c'est que les collectivités ont été, ce qu'on appelle ça, être responsives. C'est-à-dire qu'elles ont apporté des réponses vraiment en temps réel à des situations de crise. Ça, c'est vrai qu'elles ont fait preuve de capacité de répondre à l'urgence. Ça, c'est vraiment un élément important, nouveau, je pense, cette capacité à faire face à l'urgence. Maintenant, moi, je m'interroge sur le fait que les organisations peut-être se réinventent sur une partie qui est quelque chose qui fait partie de l'ADN des collectivités, hein, qu'on appelle le phénomène bureaucratique, hein, donc bien au-delà des clichés, des stéréotypes liés à cela, hein, c'est un phénomène qu'on connaît bien, fait de verticalité, on sait qui fait quoi dans une organisation bureaucratique, hein. Et donc moi j'ai l'impression que la crise a un peu réinventé cela, sous l'effet combiné de deux choses, l'intrusion massive de la technologie dans les collectivités, et puis ce dont parlait Corinne, c'est-à-dire l'innovation, mais ce que Norbert Alter, le sociologue, appelle l'innovation ordinaire des agents, donc l'innovation des agents sur le terrain. Donc sous l'effet combiné de la technologie et de cette innovation ordinaire des agents sur le terrain, j'ai l'impression que la bureaucratie se réinvente.
Alors, à ce sujet, Bernard, justement, la crise sanitaire a-t-elle modifié les procédures de gouvernance et processus de management, pardon?
Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la crise a certainement réaffirmé la figure du décideur. Voilà. C'est-à-dire que on confond, je pense, trop souvent la figure du décideur avec celle du manager. Donc là, la crise a vraiment réaffirmé la figure du décideur. Hein. Ce sont des décideurs qui ont pris des décisions en termes de continuité d'activité, en termes de reprise d'activité. Et je dirais que d'une certaine façon, la figure du décideur se distingue de plus en plus de la figure du manager. Voilà. Et donc la crise a bien montré que la gouvernance, c'était vraiment l'affaire de décideurs. Bon, les managers, de mon point de vue, de ce que j'observe, n'ont pas toujours été associés aux décisions prises dans la période récente, loin de là. Voilà. Et j'observe aujourd'hui que cette situation peut être cause de souffrance pour de nombreux managers et agents qu'ils encadrent.
Et qu'en est-il du télétravail, Corinne? Avez-vous reçu des demandes de formation et d'accompagnement sur ce thème?
Alors oui, on est très sollicité sur cette demande, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une manière très diversifiée, c'est-à-dire que cela va, je dirais, de l'accompagnement, de la mise en œuvre du télétravail, à des formations qui sont liées au management du télétravail. Alors chaque collectivité, elle avance à son rythme, selon son contexte, ses moyens et puis aussi sa réflexion, que chacun n'y va pas de la même manière. En fait, il n'y a pas de modèle type, même si le télétravail est très encadré juridiquement, il n'y a pas un modèle. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le télétravail repose vraiment la question du travail, et pas seulement en termes de mode d'organisation et de fonctionnement, mais aussi en termes de sens, de valeurs aussi. Quelles sont les valeurs, par exemple, qui rassemblent une équipe, quels sont les projets qui fédèrent? Mais aussi, je dirais, en termes de compétences, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un agent, d'un encadrant? Et peut-être aussi, je dirais que c'est aussi peut-être l'opportunité qui nous est donnée pour réfléchir ensemble à ce que l'on veut construire et comment, et probablement différemment ou autrement.
Et vous, Bernard, s'agissant des collectivités que vous accompagnez, avez-vous également été sollicité sur ce thème du télétravail?
Alors, je rejoins tout à fait Corinne. Hein, les demandes de formation en télétravail sont en très forte augmentation. Bon, c'est sans surprise. Bon, c'est vrai que le télétravail est un sujet qui était un sujet très peu abordé dans les collectivités. Si on prend l'historique, dans les années 2010, 2012, 2014, 2015, toutes ces années où le télétravail a commencé à poindre le bout de son nez, on en a finalement assez peu entendu parler et se concrétiser dans les collectivités. Donc il y a bien un phénomène du télétravail subi, celui de la crise. Voilà, donc ça c'est une entrée qui est un petit peu douloureuse hein, quand même pour, dans les collectivités, parce qu'il a fallu s'équiper en un temps record, il a fallu que les managers, les collaborateurs s'approprient toutes ces nouvelles façons de travailler. Donc ça a été quelque chose d'assez douloureux et qui fait écho à cette notion des collectivités à pouvoir gérer en urgence et apporter des réponses dans l'urgence. Voilà, aujourd'hui donc la question que les collectivités se posent et que l'on se pose avec elles, c'est comment peut-on penser le télétravail dans un temps, on va dire, un peu plus stabilisé et normal, c'est un télétravail normal par rapport au télétravail subi. Voilà, donc là, il y a un risque de confusion fort entre ces deux dimensions du télétravail. Et ce qui est vrai aussi, c'est que, pour rejoindre Corinne, c'est cette notion du télétravail, comment elle s'insère dans un projet global, un projet d'administration, un projet managérial. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a bien là le sentiment qu'il y a des collectivités qui commencent à avoir cette réflexion de comment on insère le télétravail dans un projet plus global de management. Et puis d'autres, bon, qui sont plus à gérer encore l'urgence et faire en sorte que le télétravail soit approprié par les managers et les collaborateurs.
Alors pour aller plus loin sur cette gestion globale, comme vous le dites très justement Bernard, le télétravail est basé sur la confiance et un engagement réciproque. Corinne, selon vous, qu'en est-il des modes de collaboration au sein d'une équipe ?
Alors certes, hein, le télétravail a introduit de nouvelles modalités de fonctionnement et des nouvelles approches managériales du fait de la distanciation physique. Hein, on n'est pas les uns et les autres dans un même bureau, dans un même espace. Alors, on peut être déstabilisé par cet éloignement physique, hein, et notamment pour un cadre, l'éloignement physique de son équipe, et passer en télétravail pour un encadrant, ça nécessite vraiment d'adapter son organisation, mais aussi sa posture. Puis finalement, je dirais de reposer les bases pour travailler ensemble. Alors, je crois que cela passe vraiment par la définition de règles de fonctionnement qui sont partagées par tous, et puis aussi de réfléchir ensemble au mode de communication, de relations, et aussi de coopération que l'on souhaite instaurer ensemble pour maintenir alors l'efficacité, puisque le télétravail, c'est aussi, je dirais, du travail et ça doit viser à cette efficacité, mais aussi maintenir la mobilisation de l'équipe et le lien. Et puis bien sûr, réfléchir aussi à quelles modalités on doit mettre en œuvre pour accompagner et soutenir les équipes. Et je pense vraiment que si on n'a pas suffisamment réfléchi à ces éléments, si on les a pas suffisamment pris en compte, ça peut générer ou concourir à l'apparition de RPS. Et d'ailleurs, les collectivités font de plus en plus le lien lorsqu'elles nous demandent des formations sur le télétravail, d'avoir aussi cette approche sous l'angle des RPS, de prévention des RPS. Tout ça pour dire que le télétravail, pour moi, c'est vraiment une histoire de confiance. Alors, confiance en soi, confiance dans sa posture de manager, mais aussi confiance envers ses collaborateurs. Peut-être que ça demande d'être un peu moins dans le contrôle et peut-être davantage dans la responsabilisation de l'équipe.
J'aime beaucoup votre dernière phrase, Corinne, justement, être peut-être moins dans le contrôle et davantage dans la responsabilisation. Alors, Bernard, à ce sujet, le télétravail a-t-il, selon vous, réinterroger les modes de gouvernance?
Moi, je dirais que le télétravail, en termes de gouvernance et d'organisation, a plutôt tendance à donner des habits neufs, numériques, on va dire, à la bureaucratie. Voilà. Dans l'organisation bureaucratique, on le sait, hein, le travail est atomisé, hein, chaque agent a une tâche à accomplir. Et je pense que les organisations, en plus, constatent que le travail est peut-être même plus atomisé qu'on ne le pensait, qu'avec des agents seuls devant leurs écrans, parfois même 5 jours sur 5 ou 4 jours sur 5, le travail continue de se faire. Et je pense que les décideurs pourraient croire que leurs décisions sont mises en œuvre. En fait, le risque est qu'en virtualisant le travail coupe les décideurs du terrain. Tout l'enjeu est donc d'inventer une gouvernance qui fasse réellement confiance aux équipes de terrain. Je dirais même qu'il y a une urgence. Avant la crise, le travail atomisé était compensé par le lien social. Vous savez, c'est la fameuse réunion devant la machine à café. Avec le télétravail, le risque, c'est qu'il ne reste que le travail atomisé. Et les décideurs pourraient être rapidement confrontés à un tsunami émotionnel.
Notre émission touche à sa fin. J'aurai une dernière question pour terminer notre entretien. Bernard, selon vous, en quelques mots, comment opérer un changement durable de culture managériale ?
Je pense qu'on ne pourra pas échapper collectivement, hein, les collectivités Et au-delà des collectivités, on ne pourra pas échapper collectivement à se réinterroger déjà sur la société dans laquelle nous voulons vivre. Il me semble qu'il est difficile de répondre à la question d'un changement durable de culture managériale sans s'interroger sur les tensions en cours dans notre société. Moi, je pense aux ouvrages récents du philosophe Bruno Latour, hein, « Où atterrir, où sommes-nous, hein, où suis-je ? » Bon, l'essence de la culture managériale ne peut être que dans la coproduction de sens. Et ça passe probablement par la réinvention du plus vieil outil d'intelligence humaine, qui est le dialogue. Voilà. Et comme disait Corinne en ouverture, notre boussole, ça reste les valeurs de service public.
Nous allons terminer sur ces mots, valeurs de service public. Corinne, Bernard, un très grand merci de cet échange, de votre témoignage. Regarde porté sur ces questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conseiller formation, spécialité management, au sein de la délégation Île-de-France du CNFPT. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.